On est le dernier lundi du mois de janvier, et comme tous les derniers lundis sur le 89.5, c'est joie, rage et courage. Une petite heure d'émission pour vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur et qui est censé nous botter le cul et chasser nos sales idées de résignation. Aujourd'hui, on va revenir sur l'enfermement des jeunes filles et l'histoire de cet enfermement. Suite à l'émission de décembre où on parlait des bons pasteurs, aujourd'hui on va se pencher un peu sur l'histoire locale de Saint-Étienne. Et comme le mois dernier, on va commencer par un petit montage sur ces instituts. Un petit montage avec des sons de fiction et de documentaire.
Il se passe toujours quelque chose derrière les murs. C'est ce que m'avait dit une inconnue le jour où elle m'avait raconté des bribes de sa vie. Elle avait évoqué de très hauts murs, de 2,20 m, avait-elle précisé, mais aussi une chapelle, des jeunes filles et des religieuses, des messes et des prières, des soupiraux grillagés, des corvées.
Albertine Damien, née à Alger en 1937, adoptée à l'âge de 2 ans par monsieur et madame le colonel Damien, yeux bruns, type hispano-mauresque, doit posséder du sang arabe, espagnol ou gitan. Bon, alors votre conduite a contraint vos parents adoptifs à vous placer au Bon Pasteur, une maison de correction de Marseille. Et c'est là que vous rencontrez votre complice, Marie Lefebvre, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Dès l'instant où la porte s'est refermée, j'ai commencé à me sentir coupable. Sauf que je n'arrivais pas à comprendre ce que j'avais fait de mal.
Avance.
Je veux rentrer à la maison.
Ta maison maintenant, c'est ici. Quelle plus belle maison pouvais-tu imaginer? C'est la maison de Dieu. Je suis ta première maîtresse et tu m'appelleras ma sœur. Compris?
Oui, ma sœur.
Tu crois pas en Dieu?
Bah, si Dieu existe, il nous a oubliés. Puis s'il a des trous de mémoire, c'est que c'est pas un Dieu.
Et toi, ils t'ont pas demandé ton avis?
On t'a demandé une fois ton avis, toi, depuis que t'es arrivé? On t'a traité une fois comme un être humain? Si tu me traînais, tu fermes ta gueule, t'essaies de survivre, et puis c'est tout.
Je suis pas une traînée.
T'es pas bien chez les sœurs? Tu vois? Si ta mère avait été dans un établissement comme celui-ci,
Eh bien, je serais pas née.
C'est pas ce que je voulais dire, Sylvie.
Regarde, tu vois pas où on est? C'est une prison, ici! Regarde les barreaux, là! T'entends le bruit des clés?
Si tu chagrines ta tante, je vais devoir écourter. Je ne supporterai pas de tels cris dans la maison de Dieu.
Je vous demande pardon pour elle, ma sœur.
La société française des années 2000 est une société angoissée par la crise, par l'avenir, par le chômage, et que ces angoisses qui sont réelles peuvent provoquer une certaine demande sociale pour qu'il y ait un tour de vis sur la prise en charge des mineurs de justice. C'est en se sauvegardant, en se protégeant de ces jeunes-là que la société dans son ensemble pense qu'elle va pouvoir du coup le mieux aider les jeunes qui vont bien, qui travaillent et qui respectent les règles.
Ça suffit !
Bleuette, bleuette,
bleuette, bleuette, bleuette, bleuette,
bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette,
bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette,
bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette,
bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, bleuette, d'anciennes du bon pasteur, et du coup on s'interrogeait sur le fait que ben les bons pasteurs, il y en avait à Clermont-Ferrand, il y en avait au Puy, il y en avait à Lyon, il y en avait à Annonay il me semble, mais il n'y en avait pas à Saint-Étienne. Et du coup alors ma curiosité est un mauvais défaut, ou sauf quand on fait de la radio. Et du coup la question c'était, est-ce que quelle institution existait sur Saint-Étienne? Et ben après quelques recherches, eh bien, on a découvert notamment un lieu qui s'appelait le couvent du refuge du Sauveur, un nom bien sympa, qui du coup a prospéré à partir du 19e siècle. Il a été ouvert par une sœur, sur un modèle qui avait déjà eu, qui s'était déjà fait sur Lyon. Alors dans les années 1830. Alors voilà, aujourd'hui on va parler de ça. On va faire un point sur cette petite histoire, et puis autour de ce lieu, on va s'interroger sur deux événements qui ont marqué un peu l'histoire de ce bâtiment. Ça va nous amener à nous interroger sur l'histoire et quelle utilisation de l'histoire par le pouvoir, et aussi comment nous on peut s'en inspirer, ou en tout cas la garder en tête. Ce bâtiment, ce refuge du Sauveur, il a été créé en 1838, donc c'est à peu près en même temps que les Instituts du Bon Pasteur. Les Instituts du Bon Pasteur, c'est en 1835. Et donc ces bâtiments, ils avaient comme objectif de recueillir toutes les filles, entre guillemets, que les misères a conduites à la débauche et qui mènent publiquement une vie déréglée. Alors ça, c'est une citation de la sœur Saint Polycarpe, supérieure du refuge. Et qu'est-ce que ça veut dire être une vie de débauche et une vie déréglée? C'est une vie qui ne correspond pas au jalon de ce que doit être une jeune fille à l'époque pour les autorités religieuses, et généralement les autorités administratives également, et policières et judiciaires, c'est-à-dire une fille qui peut être entre guillemets, comme ils pouvaient le dire, qui était perdu, qui était volage, ou qui avait qui était issu du monde ouvrier et qui du coup n'avait pas le même un fonctionnement qui n'était pas toléré, et surtout hein, qui était dans un milieu qui était selon eux dangereux. On reviendra dessus un peu plus tard. Bref, cet établissement s'est donc ouvert en 1838 et il a accueilli entre 70 et 90 jeunes filles qui étaient placées bien souvent, alors qui pouvaient être l'être sur par la contrainte et par les autorités judiciaires, mais principalement sur demande des parents. Après, suite à des lectures de mémoires et d'archives, on peut voir qu'en fait, ces placements volontaires, ils sont bien souvent contraints, voire arrachés aux parents par les autorités, sur des pressions notamment sociales et aussi policières. Du coup, ces jeunes filles mineures donc, étaient placées là et dans un premier temps, on les mettait à travailler et à prier pour leur salut et pour aussi enrichir cet établissement qui, du coup, s'est développé en faisant travailler les jeunes filles et, du coup, était bénéficiaire d'un point de vue économique. On va revenir un peu sur un petit témoignage qui revient sur l'histoire de l'enfermement des jeunes filles. Et ça nous parle un peu des motivations des enfermements et aussi du coup de pourquoi ça a été fait tenu par le pouvoir religieux.
Au 19e siècle, la plupart des institutions ne sont pas mixtes. Très peu de jeunes filles ont été accueillies dans les colonies agricoles. Les institutions qui les prennent en charge ont un tout autre nom. École de préservation.
Je crois que je n'ai pas besoin de faire beaucoup plus de commentaires. Tout est dans le nom. Hein. On va préserver ces jeunes filles et on peut dire ça aussi, s'en préserver. Ce sont des institutions religieuses, privées et religieuses, des congrégations qui vont en avoir la charge. Et ce, même au moment de la séparation de l'Église et de l'État, on considère que ce sont les sœurs qui ont les meilleures compétences pour remettre dans le droit chemin les jeunes filles à la limite de la débauche ou qui sont déjà tombées dans la débauche. On ne voit pas la délinquance des filles. D'une certaine manière, pendant très longtemps, elles n'intéressent pas ni la société, ni les familles, ni la justice. Ce qui fait violence à la société, ce qui est dérangeant dans le cas des filles, c'est leur sexualité. C'est est-ce qu'elles correspondent à l'image qu'on veut d'une jeune fille innocente qui découvrira la sexualité avec son mari le jour de la nuit de noces, qui sera ensuite une bonne épouse, une bonne mère de famille et une bonne ménagère. C'est ça qu'on demande aux filles. Tout sera fait à l'intérieur de ces institutions pour redresser le corps, mais alors là vraiment très physiquement, le corps de la jeune fille, pour qu'elle oublie la sensualité de son corps, la puberté, pour qu'elle arrête d'être trop coquette, interdiction de se coiffer, interdiction de se maquiller, des blouses, des uniformes comme pour les garçons, mais extrêmement informes, où on cache le corps, et tout est fait pour que la jeune fille oublie ce corps qui est le corps du délit. On continue dans l'imaginaire collectif à considérer qu'une jeune fille violente, c'est pas la norme, c'est pas normal. Hein. Une jeune fille n'est pas violente. Donc du coup, très souvent, les professionnels ou les journalistes focalisent sur la violence d'une bande de filles ou sur les violences d'une jeune fille de manière beaucoup plus importante que si les mêmes faits étaient reprochés à un garçon. Ça, c'est le premier biais qui fait qu'on a parfois cette impression d'une plus grande violence des jeunes filles aujourd'hui ou d'une plus grande difficulté à gérer cette violence des jeunes filles, mais c'est très lié à l'histoire et à la place des filles et des femmes dans l'histoire en général et de cette forte intégration qu'on a de ce qu'on attend d'une jeune fille et de ce qu'on attend d'un garçon.
Et donc voilà, ça c'était la voix de Véronique Blanchard qui a travaillé sur ce sujet, une historienne, voilà, pour trouver des textes d'elle sur la toile. Et du coup, on peut revenir du coup sur cette institution du Bon Pasteur, car du couvent du refuge, du refuge du Sauveur. Car en fait, ben voilà, il recoupe un peu ce que vient de dire Véronique Blanchard sur la prise en main par le religieux de cet enfermement et ce redressement, entre guillemets, enfin ce redressement, car c'est le terme employé à l'époque, des jeunes filles dites déviantes. Et en fait, ça s'inscrit au niveau. De l'histoire du 19e siècle, dans une évolution du religieux. En fait, le religieux, en fait, il essaye de s'adapter à l'évolution sociale de ce siècle post-révolutionnaire, qui est en proie à des gros tiraillements sociaux, à des révoltes nombreuses, et du coup aussi à un développement du capitalisme. Et du coup, le religieux, il s'adaptera en capitalisant lui aussi en faisant travailler des personnes qu'ils vont enfermer, ou alors en s'inscrivant dans des démarches capitalistes, comme on peut le voir dans la région avec ces usines internats qui se sont développées à la fin du 19e siècle. Ces usines internats étaient des usines, donc on en voit beaucoup, notamment dans le Pila, où des usines où des jeunes filles travaillaient, ou des femmes travaillaient, et étaient encadrées le soir dans des internats gérés par des religieuses. Donc notamment dans l'industrie textile. Et cette industrie textile, c'est bien... ce qui était développé au refuge du Sauveur, c'est cette pratique, ce sujet, hein, cet objet, ce thème de travail qui était très féminin et féminisé, enfin un emploi qui était un secteur économique qui était très féminisé, qui a été développé du coup au refuge du Sauveur, mais aussi dans d'autres établissements. Et du coup, l'histoire de cette industrie textile, il est marqué par différentes révoltes. Et sur lesquelles on va revenir après un petit morceau de musique, sur deux événements qui ont marqué l'histoire du refuge du Sauveur. En attendant, on va mettre un petit morceau d'Albari and Cimarrones. Allez, hop, c'est parti. The morning
baby, she was waiting so long. She was waiting so impatiently. Oh Lord, oh, when she sings, what a sweet harmony.
Voilà, on va revenir sur l'histoire du refuge du couvent, car quand du refuge du Sauveur, car quand on recherche sur internet ou dans les archives des éléments sur cette institution, on tombe principalement sur deux événements de l'histoire. Le premier, c'est une émeute qui a eu lieu en 1847. La seconde, c'est des articles de presse. Et du coup, pour nous, il était intéressant de parler de comment ces événements sont traités dans les différentes sources qu'on a pu trouver. Et on va commencer du coup par ces événements des émeutes du 13 et 14 avril 1848. Alors, il faut mettre un peu dans le contexte. Ces événements, c'était des moments où il y avait de fortes tensions et des tentatives révolutionnaires, notamment notamment sur Lyon et dans les bassins ouvriers, autour des ouvriers du textile. Alors, voici comment les archives de le site des archives de Saint-Étienne parle de ces événements. En 1848, les émeutes des 13 et 14 avril voient le saccage de plusieurs couvents, notamment le couvent de la Reine et de la Providence, ainsi que dans d'autres villes aux alentours. Ces couvents abritaient des métiers à tisser pour lesquels travaillaient des orphelines. Cette concurrence, jugée déloyale par les passementiers, fut à l'origine de la mise à sac des couvents, métiers brûlés, mobilier, linge, livres et provisions pillées ou détruites, ainsi que de plusieurs morts. Ce déchaînement de violence fut d'autant plus facile que les religieuses n'étaient pas en mesure de se défendre et que les forces de l'ordre n'opposèrent guère de résistance aux émeutiers. Donc là, on voit bien un parti pris évident de la part du site municipal, qui du coup parle que les personnes étaient des orphelines, donc c'était pas forcément des orphelines, et de nombreuses d'entre elles n'étaient pas du tout des orphelines, c'était des personnes qui avaient été placées par le pouvoir et enfermées et séquestrées, on peut le dire, avec cette dernière phrase qui dit que ce déchaînement de violence dirigé vers des religieuses, des pauvres religieuses sans défense. Où le pouvoir a un peu laissé faire. Bon, alors du coup, en regardant les archives et notamment un mémoire qui a été fait dans une faculté lyonnaise, on peut voir que la situation était un peu différente. Alors, on va vous lire l'extrait du mémoire. Dans l'autre capitale de la soie, à Saint-Étienne, les violences contre les providences furent plus tardives, car des mesures avaient été prises pour arrêter dans les couvents le tissage de la soie et de la passementerie, activité qui attisait la colère des ouvriers. Une suspension temporaire du travail y fut décidée par le maire et les scellés furent placés sur les métiers dès le 1er mars. Mais, sous la pression des fabricants et de certaines directions d'établissement qui avaient consenti à l'apposition des scellés, à la condition que les autorités promettent de pourvoir à l'entretien de ces 140 orphelines, entre guillemets, les scellés ont été levés par le juge de paix le 14 mars 1848. Toutefois, les métiers ne fonctionnèrent pas longtemps. Dès le 23 mars, une foule nombreuse, drapeau noir en tête, défila devant les établissements religieux devant les établissements religieux en proférant des menaces, et le 25 mars, deux rassemblements de plusieurs centaines d'individus s'étaient portés devant le couvent de la Visitation, dans la commune de Montaut, et au refuge rue du Haut-Tardy. Le bruit courait dans la ville que les maisons religieuses avaient repris le travail, ce qui déclencha dans toutes les expéditions punitives contre ces dernières les 13 et 14 avril 1848, similaire à celle qui s'était produite à Lyon un mois et demi plus tôt. Tour à tour, alors là, il y a un ensemble d'institutions, donc le Pieux Secours, le Rue de la Paix, le Refuge, la Providence, Rue de Foix, la Sainte Famille, la Maison des Dames d'Instruction, mitoyenne à la précédente, Rue de Lille, furent pillés. Les métiers et la marchandise qui s'y trouvaient furent incendiés. Les ouvrières, qui souvent se trouvaient à la tête des émeutiers, payèrent un lourd tribut, puisque quatre d'entre elles trouvèrent la mort lors de l'expédition contre l'établissement de la Sainte Famille, à la suite de la réaction des gardes nationaux. Les émeutiers qui se rendirent aussi dans les villages environnants, au couvent des religieuses de Saint-Genis-l'Air, qui ne faisaient plus travailler depuis longtemps, et dans les établissements de religieuses, etc. Donc en gros, il y a eu plusieurs actions à droite à gauche, et dans la foulée, aussi dans la même période, il est bon aussi de savoir qu'il y a aussi des établissements du Bon Pasteur, à Reims et à Bourg-en-Bresse, qui avaient été attaqués donc, par les ouvriers en lutte. Bon alors, on va clarifier tout de suite, l'objectif des ouvriers, c'était pas de soutenir une révolte à l'intérieur, ni de libérer les jeunes filles qui étaient enfermées. C'était c'était juste pour protester contre les religieuses qui faisaient travailler ces jeunes filles gratuitement, qui du coup jouer sur les prix et mettait plongé dans la misère les autres secteurs les autres ouvriers de ce secteur d'activité. Donc voilà. Mais il est intéressant en lisant ces deux traitements de l'information de voir la différence de traitement. Et du coup, dans le même ordre, on peut voir que aussi la ville de Saint-Étienne a subventionné, et même après ces événements, l'établissement, et du coup, aussi avait été lié en fait au fonctionnement de cet établissement. Donc voilà. Suite à ces événements, l'entreprise, le refuge du couvent du Sauveur a modifié un peu son fonctionnement et a essayé de pour calmer le jeu en tout cas et faire retomber un peu la tension de ne plus faire travailler jeunes filles sur les machines, et on les a dirigées vers d'autres travaux, notamment des travaux de broderie. Dans la plupart des établissements qui avaient été touchés par les foyers de révolte ailleurs, ces établissements ont continué à se développer et aussi ont pu réparer, revenir à bout des 400 000 francs des dégâts en développant d'autres établissements comme à Oullin ou à Saint-Genis-l'Air où se sont montés à partir de 1856 de mémoire ou de 58 des établissements des colonies pénitentiaires pour jeunes, donc cette fois-ci des jeunes garçons. Voilà, on va un autre événement aussi a marqué l'histoire du refuge du Sauveur. C'était des articles dans la presse en 1847 dans un journal parisien fourriériste. Donc fourriériste, c'est-à-dire qui suivait l'idée de Fourier, qui était un penseur humaniste, c'est lui qui a développé les phalanstères. Dans son journal qui s'appelait La Démocratie Pacifique, en octobre 47, il parlait d'écorcés de force. Écorcés de force, c'est des punitions faites dans le refuge du Sauveur. Alors je vais lire un extrait du mémoire. La Démocratie Pacifique du 17 octobre 1847 cite ainsi deux corsets, comparables à une camisole de force, l'une de grosse toile, moins douloureux, pour les jeunes filles qui ne sont pas au cachot, et l'autre avec le corset de force, plus particulièrement dénoncé, qui descend à peu près à mi-cuisse, les manches en sont très longues. Quand il est attaché, la victime a les mains un peu croisées sur le ventre. Elle ne peut prendre à boire ni à manger. Quelquefois, cet instrument, trop serré, meurtrit les chairs et cause des plaies. La détenue reçoit dans le cachot de l'eau et de la soupe, mais ses mains étant entravées, elle ne peut pas se nourrir seule et doit attendre qu'on la fasse manger, comme les petits-enfants. Par surcroît, elle doit porter une coiffe dont les attaches lui passent dans la bouche, comme le mort des chevaux. Le cachot est minuscule, mais presque neuf et doté d'un plancher. 1,50 m sur 2 m. On l'a construit parce que l'ancien était tout bonnement bâti sur le sol humide et que plusieurs de ses prisonnières, qui cependant n'ont jamais paru devant la justice, y ont contracté des infirmités incurables. Une séance enfin est relatée où l'ensemble des pensionnaires a été conduit en présence de quelques indociles qui avaient chacune une grosse chaîne en fer passée autour du cou en forme de cravate et venant s'attacher derrière le dos. Elles sont couchées sur les carreaux, le visage caché dans un linge, les cheveux épars, et toutes leurs compagnes furent obligées de défiler en sautant par-dessus leur corps. Donc voilà, c'est des scènes de séquestration, de torture et de séquestration qui sont sorties dans la presse et ont fait quelque peu réagir l'institution, c'est-à-dire qu'elle s'est un peu en fait juste adaptée. Et dans ce mémoire qui après a été écrit et qui a été publié en livre qui est accessible à Tarentaise, c'est un livre qui s'appelle Sauvageons des villes, sauvageons aux champs, il me semble, de mémoire. Je mettrai les références sur le site Joie, Rage et Courage. Bref, dans cet ouvrage, l'auteur minimise la violence de ces tortures en disant que cet excès de violence était certainement issu également de l'esprit de pénitence des religieuses, c'est-à-dire qu'en fait il y avait énormément de violence et d'auto-violence des religieuses sur elles-mêmes, et que du coup au final ces violences sur les jeunes enfermés pouvaient s'expliquer. Alors, on en pense ce qu'on en pense. On va revenir sur aussi cet établissement, parce que pour l'instant, on n'a pas dit où est-ce qu'il était. Et en fait, cet établissement était situé sur le domaine de Tardy, présenté également comme le château de Tardy, sur les hauts de Tardy, et en recherchant dans les archives, qu'est-ce que était ce bâtiment et où il était situé. On est revenu dans la rue et on a rencontré quelques personnes devant ce bâtiment qui est du côté de la colline des Pères. On va écouter un peu quelques témoignages rapides.
Alors du coup, on est à Saint-Étienne, dans un quartier à côté de Tardy, peut-être même que c'est Tardy. Ouais. Je vois des bâtiments assez ternes, assez délabrés, pas spécialement jolis, une petite rue tranquille, il n'y a personne. Et on est juste à côté d'un arrêt de bus, et puis il y a un graphe juste en face, très très joli.
Est-ce que du coup tu veux essayer de lire un truc ?
Ouais, vas-y. L'institution que je viens fonder à Saint-Étienne a pour but de recueillir dans la maison de Tardy toutes les filles que la misère a conduites à la débauche et qui mènent publiquement une vie déréglée.
Voilà. Et en fait, ce bâtiment, c'est ce qu'il y a en face. Et maintenant, c'est un lycée.
Maintenant, c'est un lycée, d'accord.
Alors voilà, je vous laisse décrire.
Du coup, c'est un établissement scolaire.
Ouais.
De l'ensemble scolaire La Salle Saint-Étienne.
Ouais.
Il comprend des lycées professionnels.
Ouais.
Il va de la maternelle au BTS.
Ouais.
Même au master, en fait.
Ouais,
au master.
Il y a un campus étudiant. Voilà.
Et voilà.
Il y a un lycée professionnel aussi avec des formations en productique et électricité.
Ok, et on est où, dans quel quartier
On est rue Franklin,
ouais.
Vers
Tardy.
Voilà.
T'es placé dans un bâtiment, c'est un bâtiment religieux.
Voilà. Oui, il y a une chapelle encore dedans.
Une chapelle encore?
Ouais, ouais, bah si, il y a la chapelle, il y a la pastorale. Si.
C'est sympa d'étudier là-dedans.
C'était en 1800, ça a commencé en 1800,
1830, et les faits qui sont relatés, c'était en 1847. Voilà.
Et donc voilà, quelques sons pris du coup devant le lycée Franklin. La rue Franklin est devant le lycée bâtiment BTS, etc. de La Salle, qui est du coup l'ancien refuge, refuge du Sauveur, qui du coup a été recyclé pour encadrer, certainement de manière différente, d'autres jeunesses. Et cet élément, ça nous amène aussi à nous interroger sur l'évolution des bâtiments et l'évolution de la mémoire, de qu'est-ce qui nous en reste, de qu'est-ce qui reste de cet établissement où des jeunes filles ont été enfermées durant plusieurs dizaines d'années et qui maintenant ont été torturées. Pour certaines décédées, en fait, on peut revenir sur le fait que, par exemple, entre 1838 et 1847, sur 159 jeunes filles qui ont été placées, 10 d'entre elles y sont mortes. Et du coup, cet établissement, il a perduré jusqu'au XXe siècle, jusqu'en 1926, avec l'effet des lois relatives à la scolarité, avec les lois sur l'évolution des lois législatives l'enfermement des jeunes et la punition sur les mineurs, mais aussi avec l'évolution des mentalités suite à la Première Guerre mondiale, le refuge s'est transformé en foyer de jeunes filles en 1926, foyer qui fut toujours financé et aidé, soutenu par la mairie de Saint-Étienne et la plupart d'autres institutions et des donateurs. Voilà, donc cet établissement est maintenant une partie d'un lycée privé. Sur ce, on va vous mettre un petit morceau et puis on reviendra sur ce qui se passe un peu dans ce quartier. Et voilà, de retour après un petit morceau de Accidente, Amistad et Rebellion. Voilà. Du coup, en allant traîner sur cette colline des Pères, et en recherchant un peu la mémoire de ce lieu où il a pu se passer des enfermements, des séquestrations, mais aussi aussi des révoltes, et on est tombé sur sur une affiche contemporaine qui a été collée récemment et qui traite de la situation du quartier aujourd'hui. Et on va la lire et puis on viendra après sur les questions que ça nous pose sur la suite de les liens éventuels ou en tout cas les traces de ce qui peut se passer. Colline vigilante et insoumise. En réaction aux attentats, l'État nous a assommés par l'instauration de l'état d'urgence et une politique de plus en plus sécuritaire. Aujourd'hui, ici ou là, le contrôle s'intensifie. Dans la foulée, le 16 novembre, avec les voix des élus frontistes et l'assentiment de quasiment toute l'opposition, la majorité municipale a également profité du contexte pour mettre en place le dispositif des voisins vigilants. Les Stéphanos vigilants vont être expérimentés dans deux sous-quartiers à Montréno, ainsi que sur la colline des Pères. Présenté comme un dispositif de participation citoyenne dans la lutte contre la délinquance et l'insécurité, il s'agit de la mise en place d'un réseau d'habitants prêts à épier et dénoncer chaque fait considéré comme pouvant troubler la sécurité des biens et des personnes en relation avec les flics et la municipalité. En clair, après avoir vu le nombre de flics augmenter, les municipaux se faire armer, le nombre de nouvelles caméras s'installer, la mairie entend bien instrumentaliser le sentiment d'insécurité pour encourager la suspicion et la dénonciation. Pour Claude Liogier, adjoint à la sécurité, cela relève d'un bon moyen de créer du lien social et de la solidarité dans une ambiance conviviale, entre fermes et guillemets. Inciter les gens à la délation, stigmatiser et surveiller son ou sa voisine, collaborer avec la police, c'est pas notre vision d'une vie de quartier agréable et épanouissante. Par contre, il est indispensable d'entretenir et de créer des liens de solidarité dans le quartier pour pouvoir réagir collectivement quand par exemple un élève de l'école Tardy risque l'expulsion hors de France, voire le cas d'Ildo, quand les huissiers et promoteurs immobiliers rôdent ou quand la mairie vient frapper aux portes pour exproprier. Créons des solidarités, pourrissons la vie des balances et des flics. Voilà, donc ça c'est une affiche qu'on a trouvée sur le mur de la colline des Pères, voisine de ce couvent. Et on peut voir l'évolution du contrôle, que le contrôle évolue, et que aujourd'hui c'est en organisant et en institutionnalisant la dénonciation et l'autoflicage entre habitants s'installe un contrôle de nos vies. C'est pour nous une bonne transition entre hier et aujourd'hui. Et puis on voulait parler de ce qui s'était passé quand même sur Saint-Étienne. Et on vous invite à retrouver et retourner écouter l'émission précédente sur les instituts du Bon Pasteur. Écouter les témoignages des personnes qui y sont passées et qui racontent ce qu'elles ont vécu à l'intérieur. Vous retrouverez tout ça ainsi que les liens les mémoires qu'on a lues, les différentes sources, ainsi que la playlist et une filmographie sur le blog Joie, Rage et Courage .noblogs.org. Et puis aussi vous pourrez nous contacter sur notre boîte mail clap@riseup.net. N'hésitez pas à envoyer vos avis, vos critiques en attendant, on se retrouvera le mois prochain pour une nouvelle émission de Joie, Rage et Courage. Avant de conclure, un salut à ce qui a pu se passer hier sur Calais et à toutes les personnes qui lâchent pas l'affaire et qui continuent à se révolter ici ou ailleurs. Au mois prochain sur Joie, Rage et Courage. En attendant, soyez pas trop sages. Et avant de nous quitter, un grand merci aux différentes personnes rencontrées rue Franklin et qui ont gentiment accepté de participer à ce petit exercice radiophonique. Allez, ciao, bye bye.